France Info.
Complotisme, manipulation, rumeurs, calomnies, emballement médiatique. Avec la Fondation Descartes, les infox de l'histoire, Patrice Gélinet. Les climato-sceptiques.
Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le 21e siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie.
Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Tout le monde se souvient de ces mots de Jacques Chirac prononcés au 4e sommet de la Terre à Johannesburg le 2 septembre 2002. Presque 20 ans plus tard, nous ne pouvons toujours pas dire que nous ne savions pas. Notre maison brûle toujours et les climato-sceptiques regardent toujours ailleurs, par ignorance ou pour dissimuler délibérément une vérité qui les dérange, le réchauffement climatique et ses causes, mises en évidence bien avant Jacques Chirac, par le directeur du Goddard Institute de la NASA, James Hansen, devant une commission du Congrès des États-Unis. C'était le 23 juin 1988.
Number one. Primo, l'année 1988 est la plus chaude qu'on ait connue depuis le début des relevés. Secondo, l'ampleur atteinte par le réchauffement planétaire nous permet désormais d'affirmer avec quasi-certitude qu'il est lié aux gaz à effet de serre. Et tertio, nos simulations informatiques indiquent que l'effet de serre est déjà assez important pour augmenter la probabilité de phénomènes extrêmes comme les canicules.
Stéphane Foucard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Monde et auteur, entre autres, d'un livre, L'avenir du climat, enquête sur les climato-sceptiques, c'est-à-dire, en fait, ceux qui, depuis une trentaine d'années, nient les causes, les conséquences et parfois même la réalité d'un réchauffement climatique, qui était pourtant mis en évidence depuis longtemps par la science, bien avant la déclaration de James Hansen que l'on vient d'entendre. En fait, l'effet de serre, par exemple, qui est responsable du réchauffement climatique, a été découvert au début du 19e siècle.
Oui, on pense aux travaux de Joseph Fourier, un physico-chimiste français, qui a participé avec ses travaux sur la thermodynamique à établir ses propriétés radiatives des gaz. Donc ça fait très longtemps qu'on sait qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'effet de serre. Dès la fin du 19e siècle, on a un grand chimiste scandinave, Svante Arrhenius, qui calcule même, en 1890, il calcule même l'élévation de la température moyenne de la Terre à laquelle on pourrait s'attendre après un doublement du dioxyde de carbone. Et d'ailleurs, il arrive à un résultat qui n'est pas très éloigné de ce à quoi on arrive aujourd'hui. Donc c'est un savoir ancien, c'est une science ancienne qui s'enracine au 19e siècle et que les chercheurs vont se réapproprier tout au long du 20e siècle pour prévoir en quelque sorte ce qui est en train d'arriver. Alors, l'archive qu'on vient d'entendre, ce que dit James Hansen, la seule chose qu'il dit, c'est que en 1988, l'année 1988, on assiste à une élévation de température très importante et il est le premier scientifique à dire que cette élévation de température qu'on observe, eh bien, elle est attribuable aux modifications du climat qui ont été provoquées par les émissions de gaz à effet de serre humaines.
C'est important cette date 88, c'est le discours de James Hansen, vous le rappelez Stéphane Foucard, c'est aussi la création du GIEC.
Tout à fait, c'est la création du GIEC, donc ce groupe...
Le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, on l'oublie toujours, oui.
Oui. Donc c'est un groupe d'experts qui est institué au départ par le G7, sous l'impulsion de Ronald Reagan et Margaret Thatcher, en particulier, et qui va, année après année, ou plutôt maintenant cinq années, si je puis dire, établir l'état des connaissances, l'état de l'art en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on sait sur le changement climatique, sa réalité, ses causes, et qu'est-ce qu'on sait sur les impacts prévisibles pour les décennies et les années à venir.
Et 88, c'est aussi une époque, au fond, il existe un très large consensus sur la réalité du réchauffement climatique.
Oui, tout à fait. 1988, c'est presque 10 ans après 1979. 1979, c'est le rapport Charney, qui est un petit peu l'ancêtre des rapports du GIEC. Alors, c'est un rapport qui avait été commandé par l'administration Carter à l'Académie des sciences américaines, qui elle-même avait confié la rédaction de ce rapport à un grand physicien de l'atmosphère qui s'appelait Jules Charney, qui était professeur au MIT, et qui, dès 1979, dit, voilà, dans un petit rapport qui fait 35-40 pages, pas plus, et qui dit de manière extrêmement claire, voilà, il n'y a pas de raison de penser que l'accumulation des gaz à effet de serre que nous sommes en train de provoquer ne déclenche pas un réchauffement climatique important et problématique. Et ils disent quelque chose qui est, quand on le lit aujourd'hui, terrible et très déprimant. Ils disent, à partir du moment où nous attendrons de voir, de pouvoir mesurer les effets sur la température de cette accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, il sera trop tard pour éviter les effets majeurs du changement climatique.
Et tous les scientifiques sont d'accord, il y a un grand consensus scientifique. Il y a aussi d'ailleurs un grand consensus politique. On écoute successivement Margaret Thatcher, Helmut Kohl en 95 et Jacques Chirac en 1997.
Every nation will need to make its contribution to the world effort.
Chaque nation devra contribuer aux efforts mondiaux. Je voudrais dire ce que fera la Grande-Bretagne. Soit nous améliorerons notre politique environnementale, soit nous aiderons les autres.
Les pays industrialisés ont le devoir et l'obligation d'ici l'an 2000 de limiter durablement les émissions de CO2.
J'appelle solennellement tous les États, et d'abord les pays industrialisés, à mettre en œuvre intégralement et sans retard le protocole de Kyoto sur le changement climatique.
Et c'était dans les années 90, il y a plus d'un quart de siècle, presque tous les pays industriels, je crois même les États-Unis, même le père de George Bush Jr. Était d'accord avec cette idée, cette réalité qui était le réchauffement climatique. Et en même temps commencent des campagnes qui mettent le doute sur sa réalité, même qui la nie. C'est ce qu'on appelle, enfin c'est l'apparition du climato-scepticisme, même le mot apparaît je crois à ce moment-là. Pourquoi ? Qui est à l'origine du climato-scepticisme ? Stéphane Foucard.
Alors c'est une histoire qui a été racontée par deux historiens des sciences américains, Naomi Oreskes et Eric Conway, dans un livre important qui s'appelle Les marchands de doute.
Que vous avez préfacé d'ailleurs.
Que j'ai préfacé, absolument.
Excellent livre, hein, publié au Pommier, le Pommier.
Oui, tout à fait. Ce qu'il raconte, c'est que à la fin des années 80, le climato-scepticisme naît aux États-Unis de deux phénomènes qui, en apparence, n'ont pas grand-chose à voir, mais qui en réalité ont une forme de connexion. C'est d'une part l'effondrement de l'Union soviétique, et d'autre part la montée en puissance de tout un corpus de connaissances scientifiques, des sciences de l'environnement, qui vont notamment s'incarner dans les premiers grands traités internationaux, en 92, le sommet de la Terre à Rio, où on a les trois grandes conventions sur le climat, sur la désertification et la diversité biologique, qui vont être signées par la communauté internationale. Et alors pourquoi ces deux événements sont quelque part connectés ? C'est que à la fin des années 80, on a aux États-Unis des groupes de scientifiques qui sont très galonnés, très prestigieux dans leur discipline, hein, qui en général ne travaillent pas du tout d'ailleurs sur le climat, mais plutôt sur la physique fondamentale, ce genre de choses, qui sont très conservateurs, qui sont de droite, qui ont eu toute leur carrière en quelque sorte structurée par l'opposition entre le bloc occidental et le bloc soviétique. Et que tout à coup, ces gens-là voient leur adversaire historique s'effondrer et voient de manière concomitante arriver tout un ensemble de disciplines scientifiques dont ils sentent qu'elles vont servir de socle à de nouvelles manières de contraindre l'activité économique, la libre entreprise, etc. Tout ce qu'ils considèrent être, finalement, l'âme et l'esprit de l'Amérique. Et par une sorte d'effet de balancier ou de transvasement, eh bien, ces scientifiques vont attaquer la science climatique, parce qu'ils vont voir dans cette science climatique les ferments de quelque chose qui pourrait ressembler à une renaissance du socialisme, du communisme, etc.
Alors il y a aussi toutes les industries qui sont menacées, effectivement, par toutes les mesures qui sont envisagées pour arrêter ce réchauffement climatique. Évidemment, je pense au pétrole, je pense aux producteurs de charbon, etc. Et qui vont utiliser des think tanks, des groupes de réflexion, en bon français, qui vont effectivement utiliser des tas d'arguments pour montrer au fond que le réchauffement climatique n'est pas une fatalité, qui n'existe peut-être même pas. Ce sont d'ailleurs les mêmes groupes de réflexion qu'on a trouvé dans les années 80 défendre l'industrie du tabac en niant ou en minimisant les effets du tabac sur la santé.
Tout à fait. Les industries fossiles aux États-Unis vont chercher comme ça des écuries entre guillemets de scientifiques, c'est leur propre terme, hein, des écuries de scientifiques pour pouvoir défendre dans le débat public leur position sur le changement climatique. Et c'est effectivement souvent des les scientifiques qui n'ont en général pas de lien avec les études sur le climat, mais des scientifiques qui sont très attachés à cette idée de libre entreprise, de liberté individuelle, du fait qu'on fait ce qu'on veut, on a le droit de fumer si on a envie, l'État n'a rien à voir là-dedans, et qui vont en fait réutiliser en quelque sorte tout un arsenal argumentaire qui avait été développé par les industriels du tabac pour jeter le doute sur la nocivité de la cigarette, et qui vont réutiliser cette boîte à outils argumentaire dans l'arène médiatique pour contester et pour jeter le doute sur la science climatique.
Avec quatre arguments que vous citez, quatre discours que vous citez, Stéphane Foucart, il y a ceux qui nient le réchauffement, purement et simplement, il y a ceux qui en reconnaissent l'existence mais qui nient son origine humaine, son origine anthropique, c'est-à-dire en fait qui considèrent que c'est l'activité du soleil qui est responsable du réchauffement climatique. Il y a ceux qui voient dans le réchauffement climatique une opportunité pour la production agricole. Hein. Et puis il y a même ceux, alors je veux dire c'est sensible à cet argument, qui considèrent qu'avant les catastrophes annoncées, c'est-à-dire les inondations, les tempêtes, la désertification, l'élévation du niveau des eaux, bien on aura découvert d'ici là des moyens de les empêcher ou de les atténuer.
Oui, c'est ça qui est très intéressant avec cet argumentaire climato-sceptique, c'est qu'il est très protéiforme et qu'il évolue avec le temps. Il évolue avec le temps, c'est-à-dire que au départ, hein, quand James Hansen fait sa déclaration en 1988, eh bien, on pouvait très bien considérer que cette petite élévation de température dont il parle, hein, de la température moyenne mondiale dont il parle en 1988, eh bien, c'est tout simplement une fluctuation, que ça va repartir à la baisse. Et puis une fois que, eh bien, la fluctuation est devenue une tendance, on peut continuer à argumenter sur le fait que, ben, c'est peut-être pas les activités humaines. Et puis, plus la science avance, plus le climato-scepticisme s'adapte à la situation, s'adapte à l'état du débat. Et aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé, le climato-scepticisme ancestral, en quelque sorte, il a presque disparu, puisqu'on voit aujourd'hui, maintenant, les manifestations météorologiques, en quelque sorte, des perturbations qu'on a introduites dans la machine climatique. Et aujourd'hui, c'est plus un technosolutionnisme, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire des gens qui pensent que, certes, le climat se réchauffe, bien sûr, c'est la faute des activités humaines, mais qu'on va réussir à maîtriser la fusion nucléaire, qu'on va pouvoir aller coloniser d'autres planètes, enfin ce genre de choses, qu'on va pouvoir même éventuellement manipuler le climat de la Terre pour le refroidir artificiellement. Enfin, il y a toute une variété de technologies plus ou moins imaginaires qui sont mises sur la table comme étant des solutions à apporter dans l'avenir à ce problème.
Alors depuis les années 90 et au début d'ailleurs, le climato-scepticisme est un phénomène spécifiquement américain, ce sont essentiellement d'ailleurs des non-scientifiques. Ça n'apparaît en France en fait que dans les années 2000, dans les propos de grands scientifiques, et pas n'importe lesquels. Le directeur de l'Institut de physique du Globe de Paris jusqu'en 2011, Vincent Courtillot, et aussi l'ancien ministre de l'Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie, Claude Allègre. On les écoute tous les deux, Vincent Courtillot sur France Inter en 2009, mais d'abord Claude Allègre au micro de France 24 pour parler en 2010 de son livre « L'imposture climatique ». Livre dans lequel il dénonce les prévisions sur le réchauffement climatique.
Ces théories sont une imposture et je pense que ces scientifiques ne sont pas corrects.
Alors ce réchauffement, il serait lié à quoi,
les réchauffements, quel réchauffement? Vous avez vu un réchauffement? Il fait de plus en plus froid. Moi je pense qu'on ne... Vous avez qu'à le voir. Je pense qu'on ne peut pas prévoir le climat, pas plus qu'on peut prévoir le temps à plus de 5 jours de distance. Vous avez qu'à regarder la météo, puis c'est tout. On prévoit le temps à 2 ou 3 jours. Prévoir le climat dans un siècle, c'est une imposture.
France Inter, le 7-10.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Le discours dominant pour l'instant, Vincent Courtillot, c'est que l'heure est grave, voire très grave, et que le monde est en quelque sorte un carrefour qui déterminera notre avenir. Est-ce que vous partagez déjà ce consensus-là ?
Absolument pas. Je suis
et
même
pour quelle raison ?
Nous avons de plus en plus d'évidence que les cycles de climat sont des cycles dus au soleil, que ces cycles en plus ne sont pas en eux-mêmes catastrophiques, qu'on retrouve en ce moment le climat de l'an 1000, et que ce climat de l'an 1000 que nous avait décrit le roi Ladurie, il avait aussi des avantages.
Alors un commentaire Stéphane, sur ces deux discours, au fond des deux vedettes en quelque sorte du climato-scepticisme dans les années 2000.
Alors on reconnaît tout à fait des éléments de langage qui viennent des États-Unis. Il y a comme ça toute une ce qu'aux États-Unis on appelle des bullet points, c'est-à-dire des points clés, des éléments de langage qui sont constamment resservis par les climato-sceptiques. Alors là, on a la confusion entre la météo et le climat. Donc évidemment, vous ne pouvez pas prévoir la météo. Vous savez pas s'il va pleuvoir ou s'il va faire soleil d'ici dans 5 jours, une semaine, etc. C'est très compliqué parce que le système est chaotique, etc. Mais vous pouvez savoir quelle va être la température moyenne de la Terre dans 50 ans si vous connaissez l'évolution de la concentration des gaz à effet de serre. Il y a une analogie très simple.
Ça a été prouvé au 19e siècle, on l'a dit tout à l'heure.
Absolument. Il y a une analogie très simple. Vous avez un pommeau de douche et vous avez de l'eau qui sort du pommeau de douche. Vous avez plein de filets d'eau qui sortent. C'est très compliqué de connaître précisément la trajectoire de chaque filet d'eau. Mais si vous avez le débit de votre pommeau de douche, vous savez exactement à quel moment la baignoire va déborder. Eh bien, c'est exactement la même différence qu'il y a entre la météo et le climat. Et on a, dans la bouche de Vincent Courtillot, cet exemple aussi qui est récurrent sur l'an 1000, qui était un âge d'or parce qu'il faisait chaud, les Vikings étaient au Groenland.
On dit que le Groenland était vert parce que justement il faisait chaud.
Alors, ce qui est formidable, c'est quand on revient à la saga d'Éric le Rouge, qui est ce Viking qui a colonisé le Groenland, eh bien, on voit que il est écrit dans cette saga qu'il a baptisé ce pays, effectivement, le Groenland, le pays vert, parce que comme ça, les gens auraient très envie d'aller s'y installer. Évidemment, le Groenland n'était pas vert en l'an 1000, pas plus qu'il n'est complètement blanc aujourd'hui d'ailleurs.
Et à cet argument, il y a l'argument aussi défendu par Vincent Courtillot des bienfaits au fond du réchauffement climatique, ce qui prouve qu'il le reconnaît au moins, et qui serait sur l'agriculture. C'est quand même, ces arguments ont porté à l'époque quand même, il y a une dizaine d'années, d'autant plus qu'ils sont portés par des scientifiques reconnus.
Tout
célèbres,
à fait.
Importants.
Ils ont porté et ils ont eu un impact considérable, je crois, sur la connaissance, en tout cas sur la perception que l'opinion a de ces problèmes. Et ce qui est très intéressant, alors là, on les entend, ce sont effectivement des scientifiques galonnés dans leur discipline. Aucun des deux n'a travaillé sur le climat, mais les deux sont des grands scientifiques, le premier en géochimie et le deuxième en géomagnétisme. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en réalité, ils reprennent là un argumentaire qui a été transmis depuis les États-Unis à la France en passant par l'Internet. Et on voit que dès les années 2005-2006, tout un tas de blogs francophones commencent à récupérer à leur profit, à traduire et à mettre en circulation sur l'Internet francophone toute cette vulgate qui circule aux États-Unis depuis les années 90. Et là, l'exemple qu'on a sous les yeux, c'est à la fin des années 2000, début des années 2010, des grands scientifiques qui reprennent servilement des éléments de langage qui circulent sur Internet. C'est très très inquiétant.
Des effets pervers d'Internet, oui, c'est important. Alors cela dit, ces scientifiques les climato-sceptiques en général, évidemment, n'ont pas pu empêcher le succès de la COP21, lorsqu'en 2015, 193 pays signaient les accords de Paris en s'engageant à maintenir l'augmentation de la température moyenne de la planète en deçà de 2 degrés. Mais alors, elles expliquent peut-être, il y a peut-être eu, le succès des climato-sceptiques explique peut-être justement l'échec 6 ans plus tard de la COP26 au sommet de Glasgow, France Inter, la Terre au carré, le 16 novembre 2020.
France Inter, la Terre au carré.
14h31, Camille passe au vert, bien sûr, Camille Cronier.
Vous vous souvenez de l'enthousiasme à la clôture de la COP21 à Paris en 2015, avec ce célèbre coup de marteau de Laurent Fabius.
L'accord de Paris pour le climat est accepté. C'est un petit marteau, mais je pense qu'il peut faire de grandes choses.
Voilà, et bien la même scène, 6 ans plus tard, samedi soir à Glasgow, c'était moins la folie.
Hearing no objections, it is so decided.
Applaudissements nettement moins nourris, oui. Suivi de cette scène incroyable que vous avez peut-être entendue ou vue aux infos, les excuses du président de la COP26, Alok Sharma.
I apologize.
Je m'excuse pour la façon dont ce processus s'est déroulé et je suis profondément désolé.
Je suis désolé, dit le président de la COP26 sur le point, on s'en souvient d'ailleurs, de fondre en larmes au moment où il annonce l'échec de cette conférence qu'il avait présidée. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'une victoire des climato-sceptiques? Ça c'était en 2020, c'était il y a quelques semaines. Maintenant, où on est au fond sur le climato-scepticisme, Stéphane Foucard?
Alors, il est quand même beaucoup moins prégnant qu'à une certaine époque. Je crois qu'il a surtout servi à retarder l'action, c'est-à-dire à faire en sorte que la diplomatie climatique que, à laquelle on assiste aujourd'hui avec, par exemple, cette COP26, mais les précédentes COP également, arrive en fait bien trop tard. Hein. Pour donner une idée de ce que Ami Dahan et Stéphane Aïkout, qui sont deux historiens deux sociologues des sciences, un spécialiste du climat, appellent une fabrique de lenteur, c'est-à-dire que la diplomatie climatique, elle se construit dans une forme de lenteur fabriquée, qui est quelque chose d'assez étonnant. La COP26, en fait, son principal apport, c'est de définir les règles d'application de l'accord de Paris qui a été signé 6 ans plus tôt à Paris. Et donc on voit que la lenteur avec laquelle tout cela se déploie rend finalement très compliqué de parler de succès à l'issue de chacune de ces rencontres internationales.
Lenteur, vous l'avez dit, due en grande partie aux climato-sceptiques qui pendant plus de 30 ans ont entretenu dans l'opinion publique le doute sur les causes, les conséquences et même la réalité du réchauffement climatique. Merci Stéphane Foucard. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre « L'avenir du climat, enquête sur les climato-sceptiques » publié chez Gallimard dans la collection Folio. C'était les Infox de l'Histoire en partenariat avec la Fondation Descartes, à la technique Philippe Mercher, aux archives sonores Arthur Barbarési, une réalisation de Somanina.